Hugo, Vince, Kat, Simon et François Pérusse. Votre nouvelle émission du matin
au 98.9 Énergie.
C'est le Boost.
Oui, madame. Oui, monsieur. On est là, on est en direct, ici même. À Québec, qui est ennuagé pour l'instant, on se prépare à un scénario similaire à hier avec, oui, des averses, de la flotte, mais quelques percées de soleil qui ont laissé droit hier aux gens de Québec à un très bel après-midi pour ma part. J'ai servi de lifeguard bénévole à quatre jeunes filles qui ont passé un bon 2 heures dans la piscine à brûler du gaz. Ah, les plaisirs de l'été, je vous en souhaite en ce mercredi 29 juillet. Mon nom, c'est Vince. Lui, c'est Simon Bourassa. Bon matin, mon ami.
Salut, Vincent.
Hugo et Catherine sont toujours absents, seront de retour lundi. J'ai parlé à Kat hier via Messenger. Profite pleinement de ses vacances et elle a hâte de vous revoir ici. Hugo, je fous la paix un peu. On le suit sur Instagram et on y souhaite de maudites belles vacances. Une petite pêche improvisée peut-être avec les filles et des affaires bien, bien relax pour reprendre le mort lundi pour une grosse saison de radio qui s'annonce à nous. Évidemment qu'on a regardé le Canadien hier perdre, en fait reprendre où il l'a laissé. C'est une quatrième défaite de suite si on relaie l'activité du 10 mars dans un contexte totalement différent dans la bulle de Toronto. Alors, Canadien qui a accordé 2 buts alors qu'il était en supériorité numérique. Ça vous donne un peu le portrait du match. Hey, mais ça veut rien dire, Simon. C'est un match préparatoire. Le Canadien joue très bien ses cartes de négligé. Et Carey Price, tout comme la gouverneure générale, he can do no wrong.
Tatar et Byron, quand même.
Tatar et Byron. Tatar qui a fini à moins 3.
Ouais.
Marqué quand même un beau but. tu l'as pris croche, hein, ça là. T'es comme grimacé un petit peu. Effectivement, le premier trio s'est fait revirer dans ses culottes. Mais on connaît Claude Julien et ses meilleurs guerriers. Statistique qui me frappe dans ce match, c'est que Jordan Wheel a eu plus de temps de glace que John Tavares, qu'on appelle ici même au Québec Tavares. Mais ça, c'était pour s'amuser. Ça. Le vrai commence samedi. Samedi, 20h. Canadiens-Pingouins. Les Pingouins qui ont perdu 3-2 face aux Flyers dans leur match préparatoire. Dans une prolongation à 3 contre 3, on a pris le format de la saison, qui va disparaître évidemment avec le bon vieux 5 contre 5 de série. On joue jusqu'à temps que la grosse madame chante. Donc, Philadelphie qui l'emporte. Eux se préparent pour le round robin. Ça va commencer contre Boston. Hier soir, victoire des Oilers. Très, très tard. Ça s'est terminé, en fait, ce matin. 4-1. Et Connor McDavid marque 2 buts. Les Oilers se préparent pour une série face aux Blackhawks. Ça débute samedi 15h. Et les Flames, eux qui ont perdu face aux Oilers, se préparent pour les Jets. Série de gros garçons. Ça va commencer samedi à 22h30. Un bon vieux hockey night. Late night. À CBC. Chiard de hockey aujourd'hui encore. Les équipes se préparent pour le tournoi de Gary. Les Jays ont gagné. Il y a beaucoup de sport, beaucoup de choses à se jaser. Qu'est-ce que t'as, toi, sur le réchaud en partant pour mettre l'eau à la bouche?
Ouais, bien, des bonnes nouvelles. Là, Santé Canada qui approuve sous certaines conditions le médicament Remdesivir. Mm-hmm. On en a entendu parler il y a quelques semaines. C'est un médicament qui sert à traiter les symptômes de la COVID-19. Lui est commercialisé sous la marque Veklury. C'est une molécule qui est utilisée pour traiter les patients qui souffrent de pneumonie, qui ont besoin davantage d'oxygène pour respirer, bref, qui ont des symptômes graves de la COVID-19. Donc, Santé Canada va l'autoriser pour les adultes,
okay.
Les jeunes de 12 ans ou plus, pesant au moins 40 kilos. Donc, on a eu recours à un processus accéléré de quoi 6 semaines pour procéder à l'approbation de ce médoc. Remdesivir qui a reçu une approbation aussi d'urgence aux États, au Japon, en Europe, à Singapour et en Australie. Donc, on continue de le suivre.
Très bon.
Très bon. Santé Canada qui va suivre l'évolution du traitement, puis comment ça fonctionne, comme les effets que ça peut avoir sur, par exemple, les patients qui ont des comorbidités, les femmes enceintes et tout ça. Donc, on suit ça de près, mais c'est approuvé, donc il va pouvoir être utilisé à grand déploiement.
Écoute, on va parler de plein de choses jusqu'à 9h tantôt, mais on vous a préparé un top 10 de terrasses qu'on a ici même à Québec. Vu passer dans les médias, c'est très intéressant. On s'entend qu'il fait soif. Une petite terrasse d'ici dimanche pour la fin des vacances des gens de la construction. Et les autres, ça pourrait faire. Puis ils vont être ouvertes après, la semaine prochaine, l'autre semaine aussi. La saison des terrasses, j'ai l'impression qu'elle fait juste commencer. Mais tu regardes le calendrier, puis où ça en vient. Là. Donc, si vous n'avez pas encore profité, ce serait une maudite bonne idée.
Oui, mais hier, il y a des gens qui en profitaient. Moi, j'ai fait du tourisme hier.
Du staycation.
Exact. Il faisait beau, tu sais, on peut pas en profiter de la journée parce que c'était maussade. Donc, aussitôt que le soleil est sorti vers 4 heures, je me suis dit, ah,
13 heures, t'es sévère. À 13 heures, il faisait beau soleil. Là.
Ouais, moyen. À Loretteville, c'était moyen.
À Loretteville! Oui, à Loretteville, c'était moyen. Le microclimat de Loretteville.
On est sorti en fin de journée, on s'est en allé dans le Vieux-Québec. On s'est enligné vers le Vieux-Port.
Oui.
Puis, écoute, terrasse là, du Don Vegan dans ce coin-là, okay. Où, dans le saut au matelot.
Oh, ça me parle.
Rue. J'ai un blanc, mais bref.
J'ai un blanc.
Oui. Il y avait du monde là, à côté.
Donc, c'est le
beaucoup,
fun encore.
Beaucoup de monde en ville.
Des mots de bonnes nouvelles.
Beaucoup de gens de Québec aussi, visiblement. Là.
Ben là, il faut, là. Puis, si terrasse, on veut les garder.
La cour arrière du festival, pleine à craquer,
tant
impossible
mieux.
De s'y asseoir.
Tant mieux. Avec les masques, même si on était dehors, il y avait pas de masque.
Dehors, pas de masque.
Maudit,
pas besoin.
Fun, c'est le fun encore. Là. Et un document d'Ozzy aussi, parce que, croyez-le ou non, il y a un document sur Ozzy Osbourne qui va sortir un documentaire télévisuel. Parce que oui, il y a encore des choses à raconter sur Ozzy Osbourne.
Il y a toujours des choses à raconter.
On se parlera de ça. Et entre autres choses, on a un 75$ également à donner ce matin chez Nutrition Sport Fitness. On vous explique comment participer au concours très, très bientôt. On est très heureux d'être avec vous en ce milieu de semaine dans le Boost. Merci d'avoir choisi Énergie et merci d'avoir choisi cet homme de surcroît. Le King du Sud, man. Tom Petty. Le roi du beat de route. Ici même à Énergie, Running Down a Dream. Ça joue pour vous et bonne journée.
Le Boost.
Ça, là, c'est ce qui est arrivé dans le temps dans le studio de Tom Petty et les Heartbreakers. Ils jouent encore alors qu'on se parle. Ouais, Tom, il est mort, là. Mais les gars à console, il a baissé le son parce que le solo est toujours en cours. En 2020, c'est comme ça que je veux faire vivre la légende de Tom Petty. Mais quel artiste, maître de la route et également maître de la musique de Tailgate. Pour les gens qui ont déjà visité America un dimanche, on souhaite que très, très bientôt, on nous permette encore ces bons vieux Tailgate américains. Sans parler, bien sûr, du nôtre, le meilleur au Canada, celui qui fait la fierté de tous, le Tailgate d'avant-match du Rouge et Or Football, qui s'enligne pour une saison, hein, pour compléter la parenthèse. On va rouler jusqu'à la Coupe Dunsmore. La Coupe Vanier est annulée par les hautes instances. Il mérite pas ce terme-là, là, mais du football universitaire canadien. Mais on peut s'enligner pour une guerre qui va terminer qu'un bon vieux carabin rouge et or,
ben
comme on
oui.
les aime. Là.
Comme d'hab.
Oui, une bonne vieille guerre de l'avant bien tirée. Et ça va me satisfaire, pour vrai. J'ai hâte de vous rencontrer, de vous resserrer la pince avec beaucoup de Purell. Au football du rouge et or, si on laisse respirer un peu ce qui se passe autour de nous, Simon, qu'est-ce qu'on peut se dire là, avant que les choses commencent pour vrai?
On a des nouvelles des deux zinzins qui avaient enlacé, sans son consentement, la journaliste de TVA en fin de semaine lors du rassemblement anti-masque. Il y en a même un qui a donné une entrevue au Journal de Québec.
Un homme repenti?
Repenti, tout à fait. Jean-François Mongrain, qui reconnaît avoir posé un geste déplacé.
Okay.
Et se dit même ébranlé par les conséquences de tout ça. Tu sais, ça a parti vite, là, cette histoire-là. Ça a été relayé rapidement.
Peux-tu, avec tout ton talent, on va à la reprise, OK? On s'en va à Toronto. Qu'est-ce qui a fait de si compromettant?
Karianne Bourassa est en reportage devant le Parlement en fin de semaine lors du rassemblement anti-masque. Donc, elle est en direct à LCN et pendant son live, il y a deux gars qui arrivent puis qui la pognent par la taille, chacun de leur bord, en rigolant.
Les deux sur la petite Karianne ensemble la prennent par la taille.
Oui, c'est
donc,
ça.
Elle est pognée là-dedans.
Elle est comme pognée là-dedans, elle est mal à l'aise, essaie de se défaire de leur emprise. Puis bon, on passe à autre chose rapidement, mais bon, par la suite, elle dénonce le geste. Elle dit « Hey, on fait pas ça, premièrement. » Deuxièmement, on fait pas ça en plus lorsqu'on essaie de respecter, en tout cas du moins moi, j'essaie de respecter la distanciation physique. Mm-hmm. On s'en prend pas, bref, à des journalistes comme ça. Donc lui, il explique avoir vécu un moment d'agressivité juste avant, au cours duquel il a défendu même la journaliste. Là. Il y a des gens qui essaient de s'en prendre à la gang de TVA. Lui, il est venu pour s'interposer entre les manifestants agressifs et la journaliste. Puis, en fait, il dit... Il explique avoir commis un geste de fraternité par la suite en mode « Garde, on est avec toi, c'est cool, on t'a protégé un peu. »
Dans la soupe de n'importe quoi qu'on peut lire sur les médias sociaux, il y avait des allégations de connaissance. C'était un gars qui connaissait Carrie Anne.
Oui, c'est parce que les enquêteurs du web sont futés.
Oui, ben, ils font leur recherche.
Ce sont des fernards.
Oui.
Le gars portait la barbe, le chum de Carrie Anne porte la barbe.
Ah ben, un plus un.
C'est son chum.
Ah ben là.
C'est ça.
Tu me
résumes, une évidence.
Une scène de crime de District 31.
Tu portes la barbe?
Je porte la barbe.
Tu es le chum de Carrie
Anne. Je suis le hugger. Je suis le hugger.
C'est toi, finalement.
OK, OK.
Attends, je porte la barbe?
Tu portes la barbe.
C'est moi, finalement.
Fait que tout le monde, sauf Nick Suzuki, finalement, est coupable.
Tout le monde, sauf Nick Suzuki et Mika Kipurusa.
Le duvet de série de Nick Suzuki. Quand il prend une photo à côté de Shea Weber, on s'entend que c'est pas la même ligue. Mais ils sont dans la même équipe. Et Tinick a très, très bien joué hier. C'est dans les rares choses positives qu'on peut dire. La défaite du Canadien de 4-2 face aux Leafs. Mais c'était juste une pratique, Simon. C'est... Samedi contre Pingouin, tu vas voir, ça va sortir avec le couteau d'un dent. Tu vois que chez Weber, il va laisser le shot à Carey, puis il va s'occuper de l'autre en deux contre un quand ça va être le temps. Yes, c'est une pratique, c'est pas grave.
On était rouillés,
hein? L'autre bord, il était à feu rouge. Aïe. On fait un sondage sur Twitter. Hier, je m'amuse beaucoup avec ce média-là. Et tu vas sûrement, je l'aurais pas tous demandé, mais tu vas être d'accord avec moi. Si tu me suis sur Twitter, tu as un léger ou intérêt marqué pour le sport en général. C'est quelque chose qui peut t'intéresser.
Ouais.
Mettons que tu me suis sur Twitter. Je pense que c'est une corrélation qui est indéniable.
Bien,
j'ai demandé aux gens hier, qu'est-ce que tu fais à soir? Canadien ou autre chose? On s'entend que l'option autre chose englobe beaucoup de choses. C'est tout sauf le Canadien.
Okay? Ça.
Et ça finit 50-50. Ben, je m'attendais à plus.
Les
gens sont fraisés, je trouve.
Plus d'engouement envers le Canadien.
Ben, je pense que oui. Je pense que j'ai un échantillonnage vraiment déraisonnable en termes de sport. S'il y a des gens qui me suivent sur Twitter... Il y a des bonnes chances qu'ils voient du sport passer sur leur fil.
Ouais, c'est moins pour tes recettes que pour le sport.
Mais mes recettes sont excellentes. Mais en toute humilité, je pense que c'est pour le sport qu'il y a des gens accrochés là-dessus. Il y a quand même 50% des gens qui répondaient autre chose. Donc, samedi, qu'est-ce que vous allez faire? On va-tu monter à 75-80%? Mmh. On fait ça pour rien? Pour les 3-4 games qu'on va peut-être avoir.
Tout ça pour ça?
En tout cas, je suis dans le bateau. Il y a des flottes en masse, il y a de la bière dans la glacière embarquée. Parce que samedi, ça va y aller au toast. Vous écoutez le Boost. Pour l'instant, avec les vacances de Hugo et Catherine, c'est moi, Vin, c'est lui, Simon.
Plus de fun le matin avec le Boost.
OK, c'est parti à 5h45. Comment ça va vous autres au 6-12-12? On s'en va-tu à job? C'est quoi le plan aujourd'hui? On est-tu en vacances? C'est quoi le plan today? Nous autres, c'est vous accompagner jusqu'à 9h. Et par la suite, bon, on va laisser respirer la journée, n'est-ce pas, Simon, après tant de labeur et d'efforts. Faut que deux hommes se reposent, ça n'a pas d'allure. Mettons que tu as un plan de journée, toi, là, qui soit vaporeux ou ben clair, ça ressemblerait à quoi? Là, t'es pas inspiré par la température extérieure,
non.
Je comprends.
Zéro.
Ça va se dégager pour toi, là.
Sûrement.
Un petit tour au lac?
Non, pas aujourd'hui.
Faire ton gazon?
C'est hier, ça.
Tellement sharp. Il nous devance toujours dans les projets de vie de banlieusard. Moi, ça va être aujourd'hui mon gazon amazonien, c'est-à-dire très peu de gazon et plein de d'autres choses.
Des herbes folles vertes,
des
fluo.
Herbes folles, des affaires qui poussent avec des pétales, du chien d'ant, des restants de pissenlit et un semblant de gazon qui n'est pas du gazon, qui est particulièrement fluorescent, qui donne des belles teintes au lever et au coucher du soleil. Tout le monde en est jaloux dans mon quartier, évidemment. On vous prépare quelque chose sur le Facebook d'Énergie. On a un petit buzz là, depuis une semaine et demie. Je ne sais pas ce qui se passe avec nous, mais on est en mode sondage. Hier, le Marie-Antoinette a gagné face aux Nichols. On retournait en 1999. On voulait luncher le midi avec une franchise qui n'évolue plus dans notre belle grande Québec. Et on s'est rappelé beaucoup de souvenirs. Des bons plats des deux franchises. C'était le fun de vous lire. C'était le fun de vous voir participer. On va aller faire un tour dans le bois aujourd'hui. En 2021. et on vous met ça très, très bientôt sur le Facebook. On veut savoir, ça va être quoi votre jouet hors route entre un Jeep Wrangler et un Ford Bronco? Je sais que vous saignez du cœur à répondre à la question. C'est trop pour moi. Comment je vais choisir entre ces deux produits? Parce que Ford arrive littéralement pour voler le lunch à Jeep. C'est la stratégie du nouveau Bronco qui sort, c'est ça. En essayant de garder la même valeur de revente, ça va être difficile parce que même des Wrangler 2012, présentement, ça se vend en haut de 20 000, peu importe le kilométrage.
Mais il y a des Bronco 86 qui se vendent le prix d'un Wrangler.
C'est ça, mais là, il n'y en a plus. Des propres, encore moins. Non. C'est la bonne vieille boîte à lunch, le Bronco, mais quel truc extraordinaire. Surtout le deux portes avec les longues portes et le genre d'aquarium en arrière. Là. On a tous voulu embarquer là-dedans si on ne l'a pas fait. Mais Bronco arrive évidemment avec un modèle plus épuré, plus sophistiqué, mais qui rappelle la bonne vieille boîte hors route. Le Ford Bronco est de retour en 2021. Vous l'avez sûrement vu passer sur les médias sociaux.
Il va avoir un modèle avec porte amovible et tout. Là.
Exactement. Pour jouer dans la cour du Jeep, qui est pas mal tout seul de sa gang. Oui. T'as des bons véhicules hors route de d'autres marques. Mais Jeep est arrivé quelque chose au tournant de 2007, qui ont bien peaufiné, qui ont bien gardé, même que depuis 2018, et on commence à vérifier, la fiabilité des modèles s'est vraiment améliorée aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très, très couru. Donc, la guerre Jeep Bronco, vous allez y participer sur le Facebook d'Énergie. Je pense même que Tony a mis ça à jour. C'est prêt pour voter. On va regarder ça. Et je sais qu'il y a bien des concessionnaires de Québec qui sont curieux du résultat du sondage chez des gens, on le sait bien. Vous, gars et filles, qu'aimez bien aller faire un petit tour dans le bois, sinon aimez bien ce genre de véhicule.
Le Boost.
À 6h15, on est prêt pour deux choses. Vos votes au 6-12-12 pour la toune de Bob quotidienne, c'est déjà commencé. On compile les votes et on vous joue votre décision. Deuxième chose, on va pas se brûler là, il est quand même juste 6h15. Les Emmy Awards prennent place dans l'actualité parce qu'on a les nominations de la 72e cérémonie des Primetime Emmy Awards qui récompense les bonnes besognes dans les séries télé. C'est intéressant. De plus en plus de Québécois consomment des séries télé d'ici et d'ailleurs. Et il y a bien des séries qui sont en nomination qui vont vous plaire. Je pense que c'est Jimmy Kimmel qui anime encore les Emmy cette année. Mm-hmm. Le format, on le connaît pas. Ça va être sur le web comme tout ce qui se passe depuis le mois de mars.
Écoute, c'est prévu pour le 20 septembre.
OK, OK.
Donc, les choses ont quand même le temps de bouger d'ici là.
Uh-huh.
Si jamais on permet des rassemblements intérieurs... côté des États-Unis, de plus de genre 500 personnes. Ça se peut qu'on se fasse un petit Emmy Awards en direct, style gala, comme à l'habitude.
D'habitude, c'est à L.A., là, la grande scène, le tapis rouge, affaire. Les belles robes, les craques, tout le kit.
C'est la grosse affaire.
Yes.
À suivre pour ça.
Qu'est-ce qu'il y a à soutirer de cette année? T'sais? Moi, c'est le jour de l'année qu'on parle des Emmy Awards que je me rends compte qu'il y a donc bien des séries que j'ai pas regardées, ne serait-ce une traite seconde. Puis là, ils sont en nomination pour plein de catégories, puis je me dis, Colin, c'est intéressant ça. Exemple. J'ai vu pas mal toutes les Star Wars, je pense. Il y en a tellement que je suis plus sûr.
Ouais.
Mais The Mandalorian, j'ai jamais touché à ça. Ils sont nominés dans bien des catégories.
15 nominations pour The Mandalorian. Donc, cette série Star Wars / Disney maintenant.
Oui.
Donc, voilà, qui a connu quand même pas mal de succès.
Vraiment.
Donc, le personnage qui vient de Mandalore. Moi, je l'ai pas vu, là, The Mandalorian. Mais bon,
ça paraît à peine que tu l'as pas vu ça. Quand t'en parles.
Tout ce que je sais, c'est qu'il y a Baby Yoda là-dedans.
Ah, ça gâche, là. Ouais. Baby Yoda.
Il y a eu Baby Yoda.
C'est de là qu'il sort, lui, Baby
c'est
Yoda.
C'est de Mandalorian.
Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le vrai Yoda? Hein? Essentiel à tout. À la vie, pas juste à Star Wars. Il y a tellement de leçons de vie qui découlent de Yoda, le personnage.
Mais j'ai perdu le fil de La Guerre des étoiles.
Ouais.
Donc, je peux pas dire ce qui advient de Yoda ces temps-ci. Sinon, il y a la série Ozark, qui est une série de Netflix qui obtient 18 nominations. Super bonne série.
Du beau travail. C'est une série qui est malaisante. J'ai abandonné à la saison 2.
Okay.
Parce que le couple en question m'était mal à l'aise.
Ouais.
Là. Mais je sais que c'est voulu.
Mm-hmm.
Par contre, il se passe beaucoup d'affaires aux abords d'un lac américain.
Ben, c'est ça. Ozark est une région américaine du Missouri. Ou une famille décide de s'installer parce qu'il fuit leur problème, parce que le père, qui est un conseiller financier...
C'est vraiment une décision.
Finalement, il plaçait de l'argent pour un cartel de drogue mexicain. Fait que, donc, doivent s'exiler un peu là-bas, puis la marbre pogne solide avec la communauté locale, les rednecks de Ozark Misery.
C'est ça, exact. T'es bien expliqué. C'est un clash entre les rednecks locaux, les pas fins, puis un planificateur financier qui a l'air d'un gars beige,
mais qui est un fou furieux.
Il faut vraiment qu'il soit qu'il se teste de la bonne façon pour répondre à tout ça. Fait que non, c'est vraiment assez spécial. C'est spécial, c'est bon.
Il y a Succession qui a 18 nominations. J'ai pas écouté Succession, honnêtement. Watchmen, là, c'est une des séries les plus écoutées présentement
sans
dans le monde.
Ouais.
C'est une histoire de super-héros à la base, mais qui est super bien faite. Là. Moi, j'entends que de bons commentaires là-dessus. Et ce qui est le fun, là, Vince, avec Watchmen, c'est que c'est diffusé sur HBO.
Uh-huh.
Mais là, toi, t'as pas HBO. Là.
Ben, je pense pas, non.
Mais t'as Crave.
J'ai Crave, ça. J'ai vérifié, j'ai Crave.
Ben, avec Crave, t'as accès au contenu de HBO et tu peux donc écouter The Watchmen, comme bon te semble.
C'est gros.
Il y a toujours une guerre Netflix versus HBO au Emmy depuis quelques années.
Ouh.
Donc, Netflix devance HBO avec 160 nominations contre 107 pour HBO. Donc, c'est un nouveau record pour Netflix avec 160 nominations aux Emmy Awards.
Avec beaucoup de produits de Netflix, des productions Netflix,
avec
plus ou moins, avec abondance de violence et de sexe, et saupoudré de tout ce qu'on aime dans les séries télé. OK, on continue à voter au 6-12-12 pour la toune de Bob. Vite de même, ça sent Chris Chelios. On va regarder plus vite et plus en détail. Moins vite et plus en détail, dis-je, ce que vous racontez là-dessus. Puis autre chose, parlez-nous, dites-nous ce qui se passe. Si vous voyez de quoi sur la route, dans la circule ou dans vos vies qui nous intéressent, on est grand raid. 6-12-12, c'est le moyen de nous rejoindre le plus rapide. On retourne en musique, messieurs, dames. Moi, c'est Vince, lui, c'est Simon. Et bientôt, beaucoup de bons sujets pour vous. Pour vous accompagner jusqu'à 9h tantôt.
Le boost.
En mon nom personnel, Vince Cochon, merci d'avoir voté Chris Chelios. Ça fait ma journée. Comme à tous les jours, une petite toune de Bob autour de 7h, 7h moins quelque. C'est la radio, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vous qui votez pendant que Simon contrôle la basse. Un peu comme Flea de Red Hot Chili Peppers. Mais il reste habillé. On a une nouvelle toute particulière qui me permet de vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup. On a un nouveau plus haut salarié défensif dans la NFL. Joey Bosa des Chargers de LA, maintenant non plus San Diego, mais LA. 5 ans, 135 millions de dollars. Évidemment, les dollars américains, des présidents morts. Tout ça pour repartir du coin de ligne. Premier front défensif de la NFL, puis faire ben peur. Au corps arrière et au porteur de ballon, n'importe qui a peau de cochon dans les mains, bref. Nick Bosa, c'est son jeune frère, il joue pour les 49ers. Lui, il va gagner plus cher que Joey dans un an et demi quand il va re-signer parce qu'il est meilleur que Joey. Deux produits dits Ohio State University. Les frères Bosa, c'est la nouvelle famille royale défensive de la NFL. C'est à ce point intéressant d'en parler et d'autant plus que... des petits gars d'ici, ça! Si on remonte la généalogie des Bosa, et ça me permet de vous conter une histoire que j'ai déjà racontée en exclusivité, parce qu'on est bien proche du monde du football. Quand on remonte l'arbre généalogique de Joey et de Nick Bosa, c'est facile de se rendre compte que c'est les fils de John qui a joué pour les Dolphins de Miami.
Ah, okay. Parce que c'est des gars de... Lui, il est né à Fort Lauderdale,
Bosa et
son frère.
Mais la vraie histoire, c'est peut-être juste au Québec qu'on la connaît. Alors que Antonio et Angelo, qui était à Venise, en Italie, entre 1900 et 1906. L'économie crache là-bas. Les gars veulent travailler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le bateau, puis ils débarquent pas à Montréal, pas à Québec, à beautiful East Broughton, pour profiter d'une carrière et élever leur famille dans cette bonne vieille belle province.
À East Broughton.
À East Broughton, précisément. Donc c'est là que... qui sont arrivés les Bosa en Amérique du Nord. C'est ici même au Québec. Plus tard, un des deux a des enfants, évidemment. Il y en a un qui part au New Hampshire, l'autre qui reste au Québec. Et il y a encore des Bosa ici même au Québec. Et je les salue s'ils sont à l'écoute. C'est de vous-même avec un auditeur, Marquis Vachon, que j'ai appris toute cette histoire-là de la nouvelle famille royale de la NFL qui, en fait, vient d'ici. Il y a tellement de choses intéressantes sur la généalogie des Bossa, notamment le fait que arrière-grand-papa s'appelait Tony Accardo.
OK.
Lui, c'était le garde du corps de Al Capone dans les années 20 et dans les années 30. Si vous faites un lien rapide entre joueur de ligne défensive et garde du corps de Al Capone, tu vois une certaine logique oui. dans la famille des Bossa.
Ça s'inscrit dans une certaine et continuité.
Accardo, qui est l'arrière-grand-père des super frères tout étoiles de la NFL, lui a fait partie d'un des épisodes les plus sanglants à Chicago, le fameux désastre de la Saint-Valentin en 1929. Lui achevait des gens à coups de batte de baseball. Et c'était pas un doux, finalement. Et ça a donné les frères Bossa, le produit de la gourme de Angelo et Antonio, importé au Québec jadis dans le beautiful East Broughton. Ça nous permet de parler de ça parce que, tu vois, après toutes ces années, Joey vient de signer pour 5 ans, 135 millions, pour terroriser les champs arrière de la NFL, en vous rappelant que Nick avec les Niners y est dû bientôt, puis il va faire encore plus. Donc, s'approprier un peu de l'histoire de la NFL, c'est carrément ce qu'on vient de faire ici dans le Boost. Une ligue remplie d'histoire. Wow. Et encore une fois, mes hommages à la Beauce, le territoire... Un des territoires les plus difficiles à négocier quand on parle de football canadien. Oui. Pour ma part, moi, je coach depuis 1998. Au niveau cadet, juvénile, le nombre de fois qu'on s'est fait spank par une équipe de la Beauce, c'est incroyable. Et l'équipe du Bol d'Or de 2008 et de 2011 des Élans de Garneau, à laquelle j'ai participé comme entraîneur, c'était en majeure partie à cause de l'importation de talents beaucerons. Notamment Tillard, qui nous avait rejoint, je pense, la semaine passée.
Qui voulait du ACDC, Tillard.
Puis qui en a eu à bord de ça, l'excellent Charles Lambert, que je salue, un ancien du Rouge et Or. Et une autre histoire qui passe par la Beauce. C'est pas les Beaux-ça, mais c'est les Lambert. Ça me fait toujours plaisir de vous conter des petites histoires de même. Ça fait partie du menu à chaque jour, ici jusqu'à 9h, si vous écoutez le Boost à Énergie.
Plus de fun le matin avec le Boost.
Pas malade à peu près. Simon, qu'est-ce qui se passe autour de nous?
Ouais, d'abord, il y a trois rassemblements privés ayant eu lieu au cours des derniers jours dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches qui seraient la cause d'une vingtaine de nouveaux cas de COVID-19. Quand on dit que c'est pas fini, là, c'est pas fini.
Mme Guilbeault avait raison.
Non.
Les parties.
Partez de jeunes. Hey, yo, le jeune, fais pas le party. Ou si tu le fais, fais-le prudemment. Les 16 cas positifs répertoriés pour la journée de lundi dans la capitale nationale sont liés à deux événements. Un party piscine à Lac et de Chemin.
Oh, tabarouette.
Est à l'origine de 4 nouveaux cas, selon la santé publique. Il y a une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli, Plastique Gagnon, qui a vu 8 de ses employés être placés en isolement après avoir été testés positifs à la maladie. La limite de 10 personnes provenant de 3 ménages maximum est toujours en vigueur lors des rassemblements privés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Donc, le 250 personnes, c'est pour les rassemblements extérieurs publics et non privés. Donc, party barbecue, party piscine, 10 personnes, 3 ménages différents. Ça tient toujours, ça.
Hier, j'avais 4 poules dans ma piscine. Le problème, c'est qu'il y en a 3 qui avaient 11 ans, puis l'autre avait 4. Okay. Là, on a du fun dans ta barouette. En distanciation.
Le lifeguard Vincent.
Bénévole, man. Jamais de salaire, mais toujours prêt à plonger.
Toujours à l'affût aussi, j'imagine.
En 2 points d'appui. Okay. Je suis même pas assis, là.
Non, c'est ça.
Les mains prêtes en avant.
Puis t'as pas de. T'es pas genre sur ton laptop en train d'écouter une série.
Oui, mais si ma blonde l'apprend, là, je suis mort. Ça fait que, OK, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça.
Genre
jamais.
D'affaire que, tu sais, si jamais tu faisais de la radio, il faudrait pas que tu le dises.
Jamais, non, jamais, jamais.
Il y a une femme de 61 ans, Thetford Mines, qui a été condamnée à 10 mois de prison pour avoir diffusé des images à caractère sexuel d'un homme sans son consentement. C'est ce qu'on appelle le porno vengeance ou le revenge porn.
Ça finit pas tout le temps bien, ça.
Vraiment pas. Particulièrement dans cette histoire-là qui nous est racontée par Isabelle Mathieu dans Le Soleil. Ce matin, Sylvie Gosselin qui a menacé l'homme avec qui elle a eu une brève liaison de diffuser des images intimes de lui. Et elle est passée à l'acte lorsque l'homme en question a décidé de mettre fin à leur relation. Ils se sont rencontrés sur Internet, ça a flirté un peu, ça s'est envoyé des photos. Même chose qui a décidé d'envoyer ces photos-là pour se venger de l'homme en question, dont l'identité est protégée d'ailleurs. Mais les gestes posés par l'accusé qui ont eu des conséquences très graves parce que la victime s'est suicidée quelques temps après la diffusion des images, expliquant son geste d'ailleurs dans une longue lettre dans laquelle il est question de la honte avec laquelle il ne pouvait vivre. Donc, en plus de sa sentence de 10 mois de prison, Sylvie Gosselin va être en probation pour 3 ans, va lui être interdit d'utiliser Internet aussi pour une période de 5 ans.
Mettons qu'il n'y a pas de lettre. Il quitte, mais il n'écrit pas pourquoi. Est-ce qu'elle se tape 10 ans quand même?
10 mois.
Parce que tu as dit 10 ans.
J'ai dit 10 ans?
Oui, excuse-moi. Okay, excuse-moi. Ça me fait sursauter.
Oui, oui, non, 10 ans. C'est 10 mois, c'est mon erreur.
Mais est-ce que la peine est la même? La question demeure. Est-ce que la peine est la même si on ne retrouve pas la lettre? Est-ce qu'on est capable de prouver qu'il s'est enlevé la vie à cause de ça?
Tu n'es pas condamné pour la mort de l'individu.
C'est ça.
Tu es condamné pour le geste que tu as posé initialement...
Au point de vue légal, ça a-tu un poids, ça? Si ton geste de la part de la personne qui s'enlève la vie, c'est 100% de la raison du pourquoi.
Les conséquences de ton geste, ça a une incidence sur la sentence.
OK. Ouais. Tout à fait.
Ça peut avoir une incidence sur la sentence.
Okay. Pensez-y un peu. Mais... Souvent des cas de garçons, d'hommes qui partagent des affaires du genre, mais là, c'est une femme qui l'a fait à un homme qui s'est enlevé la vie par la suite. Vraiment une histoire plate.
Ah, une histoire de fou.
Horrible, mais ça nous fait réfléchir sur l'étendue d'un partage sur Internet. Peu importe que ce soit une blague ou pas, là, c'était clairement pas une blague, mais toutes sources confondues, c'est vraiment pas facile.
Oui, puis là, c'était des adultes. Quand c'est des mineurs où il y a du transfert puis de l'envoi de photos, là, on tombe dans la distribution de pornographie juvénile.
Puis à un jeune âge, on est moins outillé pour faire face à ça. Tu vois, le monsieur, il l'était pas. Vraisemblablement, il s'est enlevé la vie. Ça a bousillé son futur au grand complet. Mais chez des jeunes de 14, 15, 16, c'est très sensible.
Il y a l'humoriste Julien Lacroix qui ira chercher de l'aide d'après un nouveau message publié sur les réseaux sociaux hier. T'sais, il est critiqué aussi pour ce message-là. Il a été critiqué pour ses excuses bizarres. Puis là, il est critiqué pour le message sur lequel il revient sur ses excuses. Il s'excuse de s'être excusé, bref. Il a écrit « L'heure est venue d'aller chercher les réponses à des questionnements que je traîne avec moi depuis trop longtemps. Mm-hmm. » Selon Le Devoir, lui aurait commis des inconduites sexuelles envers 9 femmes. Lacroix qui s'est excusé après avoir blessé des gens dans son message de lundi en disant avoir réagi sous le coup de l'émotion. Il ne s'est par contre toujours pas excusé auprès des victimes présumées. Donc, c'est pour ça qu'il a toujours critiqué l'humoriste.
Le témoignage du père d'une des victimes qui a parlé, ça vient de chercher en dedans. Là. C'est une nouvelle perspective à laquelle on pense pas tout le temps. Mais cette fille-là, elle a un père.
Oui.
Puis ce père-là dénote le problème, soi-disant problème d'alcool de Julien Lacroix, d'aller se faire soigner. Puis c'est même pas un témoignage d'injure. Là, tuer mon petit... C'est juste expliquer dans des yeux d'un papa, tu sais, comment on vit ça. Puis pour vrai,
c'est le père d'une des principales présumées victimes de Julien Lacroix. Oui. Puis le monsieur dit, garde, je te souhaite juste de régler ton sérieux problème d'alcool. Mm-hmm. Puis, by the way, ma fille n'aurait jamais dû vivre ce que tu as fait vivre.
Exactement. Tout en considérant, selon moi, le problème d'alcool, c'est un problème. Mais il y a un problème qui te mène à l'alcool.
Aussi.
C'est plus ça qu'il faut aller chercher. Oui, à la source même, parce que il y a bien du monde qui boivent beaucoup et c'est un problème pour leur santé.
Oui.
Ils feront jamais rien du genre. Donc, qu'est-ce qui te pousse à boire et à faire ça par la suite? Des fois, il faut que tu te couches sur une table puis parler pendant des heures pour qu'on trouve c'est quoi le problème.
Pendant des heures, pendant des mois, peut-être même pendant des années.
Puis c'est quoi le problème de Canadien? Explique-moi ça.
D'après moi, le problème de Canadien, c'est...
Je vais te devancer. C'est le même que le 10 mars. Défaite de 4-2 du Canadien face aux Leafs hier. On a repris ou on l'a laissé alors qu'un avantage numérique a produit moins 2 sur 6. Je vous explique. Ils ont eu 6 chances d'avantage numérique. Ils n'ont pas marqué. Mais pendant ces 6 chances, 2 fois, les Leafs ont marqué à 4 contre 5. Donc, ça donne moins 2 sur 6.
C'est un peu tannant.
J'aime les premières historiques et je vais aller au livre avec Jerry Rochon, du moins à sa mémoire.
Oui.
Et on va aller voir si c'est déjà arrivé. Ce qui n'était jamais arrivé à ma connaissance, c'est qu'un gars comme Jordan Wheel ait plus de temps de glace que John Tavares. Tu me dis, c'est un match d'exhibition. Claude, il aime vraiment beaucoup Jordan Wheel. Ça, c'est les constantes avant COVID avec lesquelles on va vivre. L'autre, c'est Carey can do no wrong, même si Anderson a été meilleur. Le Canadien s'incline 4-2 face aux Leafs. Mais sais-tu quoi, Simon? C'est pas grave. Parce qu'elle comptait pas, ce game-là. Samedi, ça compte contre les Pingouins, 20h, début d'un 3-5 qui est, j'espère, attendu au Québec. On aura la chance de s'en rappeler hier. Pas juste Canadien qui commençait. Les Pingouins aussi ont perdu 3-2. Ah, sont vulnérables. Les Pingouins ont perdu 3-2 contre les Flyers dans une prolongation 3 contre 3 qui ne sera pas le cas en série, mais on a gardé le format de la saison régulière. Crosby a quasiment joué 20 minutes et a l'air fierpète et prêt à y aller. Les Oilers ont battu les Flames 4-1. Connor McDavid marque 2 buts dans leur seul match préparatoire. Les Oilers préparent contre les Blackhawks. Début de leur série, eux 3-5 samedi 15h. Et pour les Flames également, ça va être samedi contre les Jets qui, eux, se préparent aujourd'hui face aux Canucks à 10h30. Avant ça, Rangers Islanders, 20h. Avant ça, Caroline contre Washington, 16h. Avant ça, 14h30, Colorado, Minnesota. Et avant ça, oui, à midi, il y a du hockey. Tampa Bay contre Floride. Les Jays l'emportent 5-1 au baseball face aux Nationals. Vladimir Guerrero Jr., un long. Lourdes Gurriel, un long. Junior Dadez, lui aussi. Et les Jays continuent à frapper la longue balle face aux Nats. Match numéro 3 après 2 victoires consécutives. Ce sera un duel entre Max Scherzer et Nate Pearson. Lui gagnait tous les matchs chez Freddie Mercury et Queen dans le Boost.
Le Boost.
Ouais, vous commencez à nous connaître un peu. On a quasiment soif en permanence. Je dis ça parce que je nous laisse des breaks, là. Mais surtout l'été comme ça, là, on n'est jamais bien loin d'un petit jus. Hein? Vous êtes vino, vous êtes bière, vous êtes spiritueux, vous êtes plus sur le fort. Christy, c'est le fun d'aller sur une terrasse, même dans les circonstances actuelles.
Ah non, mais...
Je dirais d'autant plus que les circonstances actuelles nous ont donné du fil à retordre dans les derniers mois. L'opportunité d'aller sur une terrasse avec une gang de chums.
Non, on a le goût de sortir, là. On est un peu fou comme de la marde.
Ou avec l'être cher, ouais. On est olé, olé, on est prêt à piger sa carte de crédit pour se permettre quelque chose qu'on devrait peut-être pas.
Mais ça, c'est le plastique.
On le fait pareil. Do it, fais-le. Do it, comme disait l'autre. Puis là, pour vous accompagner là-dedans, parce qu'on en voit des belles terrasses, le fun, là, mais on les a pas toutes vues. Simon vous a préparé, inspiré d'une pige sur les médias sociaux, des 10 terrasses les plus hautes dans la région de Québec. Ça, je pense que c'est un dossier qui est impératif. C'est au-delà de parler de politique puis de Canadiens.
Non, non.
Où est-ce qu'on va boire au soleil, bien servi avec des bons produits? C'est toujours le fun de faire le tour de ça. Puis faire le tour, justement, c'est le sujet même du sujet. On le fera jamais. On a besoin d'inspiration. Pour être attaché à nos vieilles places. On va souvent aux mêmes places parce qu'on connaît le serveur, la serveuse qui nous sert si bien.
Ben oui.
On connaît les produits qu'on y sert, mais il n'y a rien de mieux qu'en découvrir une nouvelle. T'sais, ce sentiment de hey, « je t'ai jamais venu ici, c'est donc bien hot » dans ta propre ville,
ouais,
c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble dans les prochaines minutes. Fait que, fais-moi donc un classement de 10 à 6, puis on fera le reste tantôt.
Parfait. Donc, c'est un spécial terrasse staycation. On reste dans la région de Québec.
Oui.
On redécouvre notre région,
oui.
Puis on va pas trop loin pour aller, par exemple, en 10e position du top 10 des plus belles terrasses de la région, celle du quai 1635. Es-tu déjà allé là, Vincent?
Ça, c'est Cap-Rouge, hein,
oui,
la Marina. Quel bel endroit. Non. Marée haute, marée basse, goéland, pas goéland, c'est magnifique.
Beau petit resto, ambiance décontracte, très réputé pour sa poutine, apparemment, qu'elle est délicieuse, selon un ancien collègue du nom de Landry, qui est un gros fan.
Un connaisseur.
C'est lui qui m'a fait découvrir cet endroit-là, d'ailleurs. Puis, il y a un petit côté historique à ça, parce que tu es situé, techniquement, au quai 1635 à Cap-Rouge, là où Cartier s'est installé à l'hiver 1540.
La décision, hein?
Fait que là, tu te dis...
Fait que nous sommes tous ici aujourd'hui.
Oui, fait que là, tu dis, quand Cartier s'est installé en 1540...
Il fait beau ici, on va s'installer
c'est
ici.
Ça,
il n'y a
dit,
pas de vent,
c'est
il fait jamais
hot,
froid.
Exact.
Bravo, Jacques!
Sauf que l'hiver est arrivé. Ouais. Donc, quai 1635, superbe terrasse sur le... Mais en fait, je dis que sur le bord du fleuve, elle est dans le fleuve,
de
la terrasse. Là. Elle
n'est
pas sur le bord,
non,
elle est dans
non,
le fleuve.
Non.
Donc,
la dernière fois que je suis allé là, c'était pour taquiner le doré avec Zoé à l'embouchure de la rivière.
Oui, près de la plage Jacques-Cartier.
Tout à fait. Mais pas la plage, l'autre bord du quai, 1635. Ils se pognent des petits dorés jaunes un peu pâles. L'autre, là, mais il s'en prend, ça arrive.
Hier, à la place des Canotiers,
oui.
dans le secteur du Vieux-Port, d'Alousie, ce coin-là,
oui.
ça titillait le bord rayé.
T'as pas le droit?
Ben, en tout cas.
C'est marqué à terre, t'as pas le droit de pêcher là.
Il y a des gars qui pêchent.
Si vous faites ça, moi, il y a les moutous.
Il y a des gars qui pêchent. J'ai vu un gars sortir une grosse barbotte.
Ouais.
Un genre de barbu.
Tellement visqueuse et dégueulasse, mais quel combat quand même. Quand elle reste à côté dans la vase, là, elle veut pas sortir de là. Mais on parlait de terrasse.
Oui, terrasse. En 9e position des 10 plus belles terrasses de la région de Québec, le Panache Mobile au vignoble de Sainte-Pétronée.
C'est nouveau, ça, vous?
Donc, le restaurant Panache Mobile, qui est le food truck du resto Le Panache.
Sur l'île.
Oui, sur l'île d'Orléans. Donc, il est stationné à l'entrée du vignoble de Sainte-Pétronée.
Ah ouais.
En haut des vignes,
Droit
en face de la chute Montmorency.
Donc,
c'est la vue la plus convoitée des gourmands de la région, selon ce que me rapporte l'Office du tourisme.
Intéressant, ça.
Donc, regarde, accord mai 20 paysages.
Y a-tu de la micro? Ça, c'est le tannant qui te pose toujours la même question. Est-ce que tu es tannant avec ça?
Il y a tout ce que tu veux au Panache Mobile.
Tout ce que je veux?
Tout ce que tu veux.
OK.
8e position, ça c'est un classique, on entend beaucoup parler, on reste à l'île d'Orléans, Cassis, Mona et Fille. Donc, à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Là
OK,
où
Saint-Pierre,
oui. Okay. Oui, on y offre des boissons à base de cassis. Toutes sortes de produits à base de cassis, c'est là qu'on le produit et qu'on le transforme aussi. Donc, c'est, tu peux prendre un petit verre là. C'est vraiment reconnu pour sa terrasse. Là, tu sais, t'as les champs en bas, le fleuve. Vraiment une très, très belle place.
Là, dans ton top 10, à date, t'en as une seule à Québec. T'en as deux sur l'île.
Oui.
Ramène ça à ce bord ici.
On vient à Québec.
Et
tu es allé au Sacrilège.
Sacrilège, c'est quoi ça déjà?
Le bar...
Sur Grande Allée?
Non, c'est sur Saint-Jean, en haut.
Ah, Saint-Jean, oui, le Sacrilège. OK, ouais. OK, c'est une belle petite boîte.
Dans le faubourg Saint-Jean.
Je suis allé, mais mes souvenirs sont vagues. Ben, il devait être 2h15, heure de l'Est.
Ben, moi, chaque fois que je vais là, ça vire mal. Ben, mal dans le sens où je ressors semi-là. Parce que la terrasse est dans une cour intérieure, en arrière.
Ah, c'est celle-là?
Oui.
OK, je m'en rappelle un peu plus. Là.
C'est vraiment une des plus belles terrasses à Québec. Il y a des gros arbres matures genre, qui traversent toute la terrasse, la cour intérieure.
Puis tu passes devant sur Saint-Jean, puis tu entends l'ambiance là, au bout du corridor.
Solide place, le Sacrilège, où j'y ai déjà passé quelques bons moments. On se garde le 6-1 pour
plus tard. Le 5-1. Punche-moi ça avec la position 6 du top 10 des terrasses de la région de Québec.
La Barberie, quartier Saint-Roch, reconnu pour les amateurs de bière partout au Québec.
Ah oui, du jus local.
Ça a été une des premières micro-brasseries commercialisées.
Leur New England IPA, évidemment, les bouteilles sont un peu toutes sombres, mais l'étiquette bleue, là, c'est encore excellent.
Il y a les urbains culteurs qui ont planté toutes sortes de trucs vraiment nice sur la terrasse, ce qui l'agrémente énormément.
Okay.
Donc, vraiment, vraiment une superbe terrasse que celle de la Barberie. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle est grande, la terrasse de la Barberie. Elle est vaste. Mm-hmm. Il y a de la place en masse, même en période de distanciation. Il y a certainement moyen d'y trouver son compte. Puis je suis passé devant hier. Puis, il y avait déjà un petit line-up. Là. Il était 5h30, 6h, moins
quart. Il faisait soif.
Le monde, ça se garrochait là. La Barberie, c'est vraiment une institution à Québec.
Profitez-en. Les positions 5-1 un peu plus tard. Au 6-12-12, moi, je veux vos suggestions. Là, c'est bien beau, les dossiers à Simon Bourassa. Là, mais il y en a peut-être une que vous connaissez, qu'on ne connaît pas, puis on aime bien ça, découvrir des nouvelles patentes. Surtout quand ça vient de vous. Fait que staycation, mon ami, des terrasses dans la région. C'est l'été par excellence pour ça. On fera le reste en...
Plus de fun le matin avec le Boost.
Les positions 5-1, évidemment, on fait un crescendo d'excellence. Où est-ce qu'on va prendre notre prochaine mousse ou notre prochaine sangria, mon ami?
Tu iras accompagné, bien sûr, d'un plat gastronomique désirable au lapin sauté.
Terrasse. Je ne suis jamais allé.
Du lapin sauté.
Y a-tu des restos à Québec pour être jamais allé au lapin sauté?
Regarde, ça te donne une raison de visiter le Petit Champlain, on s'entend? C'est une des raisons de visiter le Petit Champlain. Hier, là, moi, je me suis promené dans le Petit Champlain hier soir. C'était impossible, ou presque, de respecter 2 mètres entre chaque personne. C'était noir de monde, le Petit Champlain.
Mais c'est rendu 1,5 mètre.
Oui, 1,5 mètre. Mais bref, même 1,5 mètre, c'était tough. Tu sais, je marchais lentement pour laisser de la place au monsieur, madame en avant.
C'est ça, le Petit Champlain.
C'était noir de monde. Tu sais, bon, peut-être un peu moins de touristes à Québec cette année, mais en tout cas, hier, ça paraissait pas dans le Petit Champlain. Il y avait un line-up d'une 60aine de personnes pour manger au spaghettini.
OK. Ça avait-tu l'air d'un groupe ou c'était vraiment des micro-groupes différents?
Des micro-groupes différents. Non, c'était l'enfer. Oui, il y avait vraiment, vraiment
beaucoup de monde. Tout impressionné. Il y avait un line-up le resto.
C'est parce que, tu sais, on n'a pas cette impression-là rapidement quand on se promène en ville ces temps-ci. Mais non, hier, c'était vraiment la frénésie.
Je t'ai parlé de ma trotte sur Saint-Jean la semaine passée avec les poules. Puis, l'aération est extraordinaire. Le service est excellent. Il y avait du monde, mais pas trop. Pour vrai, c'est des circonstances très, très gagnantes. Si le monde vous étouffe, votre ville est encore belle. Visitez-la, vous allez plus la voir, la goûter, la respirer. C'est tellement le fun de rester ici. Des fois, on l'oublie. Mais... Puis vos enfants, pensez à eux aussi. Peut-être que toi, tu l'as visité 25 fois, le Petit Champlain puis la terrasse du Frein. Mais vos enfants, c'est arrivé quoi, une ou deux fois? Puis pour eux autres, surtout, il y a toujours des affaires à découvrir. C'est sûr qu'ils vont te têter des bonbons tout le long, mais ça, c'est anywhere. Tes parents à vie. Exact.
Donc, la terrasse du lapin sauté dans le Petit Champlain, allez voir ça, vraiment une des plus belles terrasses à Québec, très certainement. C'est dans mon top 10 et c'est dans le top 10 de Tourisme Québec. Je suis passé devant aussi hier, puis elle était tout aussi bondée qu'elle devrait l'être en 4e position de ce top 10 des plus belles terrasses de la région de Québec, celle du Café du Monde.
Quelle vue, hein?
Petit déjeuner festif.
Ouais, c'est bon aussi.
c'est excellent. Moi, le problème quand je vais déjeuner ou bruncher au Café du Monde, c'est que je brunche, souvent je dîne, Puis des fois, je prends l'apéro.
Ouais, t'sais? Ça s'étire.
Ah, ça s'étire.
Moi, mon gros problème, c'est que je bois la sauce hollandaise.
Ouais,
ça,
aussi.
C'est un problème.
Ça, c'est un autre problème.
Le médecin
ça.
Fait dire de ne pas faire ça.
La terrasse du Café du Monde, ouais. Vue sur le fleuve, vue sur le secteur du Vieux-Port, c'est clairement une des plus belles terrasses de la région. Troisième position. On entre dans le top 3 des 10 plus belles terrasses à voir dans la région de Québec.
Vas-y, man, c'est excitant tout ça.
Elle débordait hier. Okay. Elle était presque inaccessible pour le commun des mortels, la cour arrière du Festibiaire.
Malade. Tout simplement malade comme concept. Évidemment, c'est plus un secret. Au début, ça l'était. Ouais. Fait qu'on était tranquille.
Ben oui.
Là, c'est à la limite, s'il y a des line-up. Et ça, c'est vraiment spécial comme terrasse parce que, ultimement, les tout petits comme les très, oui. très plus grands. Ils trouvent leurs pieds.
Non, mais hier, là, les enfants fanfaronnaient dans l'eau.
Ah oui, ah oui.
Puis ça buvait de la bière de micro, les adultes ouais. autour. Il y avait un line-up, c'était plein à craquer.
La chaise dans l'eau, on peut se le dire que ça non, fait aussi.
C'était
là.
Très hot. Ben ouais. Il y avait deux chansonniers qui jouaient des classiques.
Ça gratte
non,
jusqu'au feu.
Non, c'était l'enfer hier. Vraiment... La terrasse du festival, c'était le party, puis il était 7 heures.
Il y a des maillots, hein?
Non, non, il y a tout ce qu'il faut. Donc, troisième position, cour arrière du festival. Je vais jamais aller là, aller faire un tour pour voir
et
si ça vaut la peine.
Du gros jus.
Oui, non.
C'est... Ça vient qu'à un certain prix.
Ouais.
Elle n'est pas donnée, mais bonne en tabarouette.
Le bistrot L'Origine, hein? C'est la deuxième plus belle terrasse de la ville de Québec.
Tu vois, ça, c'est un dossier de Tourisme
très
Québec
certainement.
Repris par le très crédible Simon Bourassa, puis je connais même pas cet endroit-là. Puis je suis gêné de te le dire parce que c'est le numéro 2 des terrasses à Québec selon des gens qui les connaissent toutes. Fait qu'apprends-moi un peu là-dessus.
Secteur, tu sais, Côte de la Montagne, rue du Porche, rue Sous le Fort, dans le secteur d'Alousie, bref, bistrot L'Origine.
Aux abords du meilleur tracé qu'a connu le Red Bull Crash Tice.
Ben oui. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est encastré dans un immeuble patrimonial. Petite terrasse avec une ambiance intime, mais clairement dans les meilleurs cocktails à Québec.
Ah oui?
Meilleures confections de
comme
cocktails.
Pas, pas des margaritas, là. Pas des
non, non, mais tout. Surtout les cocktails classiques.
Oui.
Il y a des cocktails réinventés. Puis que dire de la gastronomie du bistrot L'Origine? Là.
Cool.
Si vous avez un cadeau à vous faire, là,
oui.
vous célébrez vous-même une fois dans l'été, bistrot L'Origine et leur terrasse malade.
Très hot.
Et en première position, des plus belles terrasses de la région de Québec, c'est un amalgame de terrasses. Et selon Tourisme Québec, c'est la Grande Tablée. C'est quoi la Grande Tablée? C'est du jeudi au dimanche. Sur Saint-Paul, Saute-aux-Matelots et Saint-Antoine, dans le Vieux-Port, tout le monde sort dans la rue ses terrasses. Dans le fond, tous les restos sortent
okay,
leur table.
Jeudi ou dimanche?
Ouais, jeudi ou dimanche.
Pour le midi et pour le souper?
Toute la journée.
Wow!
Il y a possibilité de manger en terrasse dans le Vieux-Port. Puis là, c'est simple de se promener. Là. Tu vas avoir le Don Vegan. Tu vas avoir la Piazzetta sur le coin. Il y a Pizza 900
oui,
aussi,
oui,
un
oui,
petit
oui,
peu
oui.
plus loin.
Oui, oui,
après ça, tu remontes. Là, tu vas avoir le Mato 71 dans ce coin-là qui va sortir ses tables. L'Échaudé, qui a un menu de malade. Okay,
c'est vraiment un power play
oui, oui.
de plaisir.
Non, non, mais c'est que ça. Là.
C'est inégalé. Puis,
petit cocktail, là, mettons, à L'Échaudé. Après ça, petite entrée au Don Vegan. Oh, petit tourner dans une galerie d'art. Après ça, oh, alors pas dans un petit cocktail à quelque part. Non, mais c'est ça. Là.
C'est juste moi. Tu sais, quand ta chaise est sur des vieilles pierres. Là,
oui.
De rue de pierre.
Ça frotte,
non, mais ça
le
fait.
Là,
tout est tellement pittoresque autour.
Non, mais c'est un super secteur. Je trouve qu'on va pas assez souvent dans le secteur du Vieux-Port. La Grande Tablée, je vous le dis, là, jeudi ou dimanche, Saint-Paul, Saute-aux-Matelots, Saint-Antoine. C'est là que ça se passe.
T'as encore parfaitement raison, Cibole. Comme disait un ancien collègue, c'était
tabarnouche.
Simon Bourassa. Oh, tabarnouche.
Le boost.
On est roulé dans la farine. Qu'est-ce qui nous arrive?
L'un des deux hommes qui a enlacé une journaliste de TVA lors de la manifestation contre le port du masque obligatoire dimanche à Québec s'excuse. Il y a le ministère de la Santé qui lance une enquête indépendante sur la situation entourant l'auberge aux Trois Pignons de Beauport, dont la gestion est maintenant entre les mains du CHUS de la capitale nationale. Et Santé Canada a approuvé sous certaines conditions le médicament Remdesivir pour traiter les symptômes de la COVID.
Ah, Jordan Wheel a plus joué que John Tavares. Frederick Anderson a été meilleur que Carey Price. Le Canadien est moins 2 en 6 avantages numériques. Résultat, Leafs 4, Canadiens 2. Match 1 du 3-5 contre Pittsburgh, samedi 20h. Soyez-y, mon messieurs.
Alternance soleil-nuage, 40% de probabilité d'averse cet après-midi. Risque d'orage, même scénario pour demain jeudi. Ça va être nuageux avec un petit 23 pour vendredi. On devrait revoir le soleil
yes,
samedi avec un max de 27, mesdames, messieurs.
Let's go. Il fait soif en tabarouette. Jadis, Éric Gagné arrivait au Monticule en sprint avec cette chanson. Toi... tu t'en vas à job avec. C'est la même affaire. Qu'est-ce qu'on disait jadis? Cacher les femmes et les enfants. Éric Gagné, ça arrive au monticule. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent... ça sent game fucking over. Pour nous, ça commence ici dans le Boost. Bon matin, Québec. 7h34, mon nom c'est Vince et lui est Simon. Lui, c'est Axl Rose, Slash, Dizzy, Duff, Matt, toute la gang. Welcome to the jungle.
Plus de fun le matin avec le Boost.
Karen! On n'a jamais fini d'apprendre sur Ozzy Osbourne. Et la preuve, c'est qu'il y a un documentaire, un nouveau sur A&E qui va sortir très, très bientôt. Et mon ami Simon Bourassa, un amant de la musique, a mis la main là-dessus. Malgré tout ce qui a pu s'écrire et se dire sur la légende d'Ozzy Osbourne, il reste encore des choses à découvrir. Pas tout à l'avantage du bonhomme.
Le 7 septembre prochain, vous allez pouvoir voir sur A&E, puis ça risque de sortir un peu plus largement par la suite, le documentaire biographique « The Nine Lives of Ozzy Osbourne », l'homme aux neuf vies. Donc, dans lequel vous allez entendre plusieurs personnes, dont sa famille. T'sais, Jack Osbourne, Kelly Osbourne.
On les a vus dans la série.
Sharon.
On va les aborder différemment, j'imagine. Ça commence un peu rough, ce qu'on nous présente, dans le sens que papa Ozzy, c'est peut-être pas le père que tu souhaitais. Là.
Non, c'était peut-être pas le meilleur papa à la maison. Ozzy Osbourne qui aimait mieux être en tournée qu'être pris en cage chez eux. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, vous allez l'entendre dans l'extrait. Bref, on décrit la carrière d'Ozzy Osbourne. On n'y va pas dans le gros sensationnalisme. On fait surtout témoigner des gens. Je parlais des membres de sa famille, mais il y aura aussi des gens qui l'ont inspiré. Entre autres, Marilyn Manson, Rob Zombie, Ice-T. Vous allez entendre le producteur Rick Rubin, Post Malone, Jonathan Davis de Korn aussi parle dans ce documentaire qui va retracer aussi non seulement la vie et la carrière d'Ozzy Osbourne à travers ses, bon, oui, ses frasques, mais ses bons coups aussi, puis sa vie personnelle, mais aussi le fameux, la fameuse création de ce festival qui a quand même changé le visage du heavy metal pendant des années, qui est le Ozfest.
Mm-hmm.
Tu sais, quand Ozzy Osbourne, à un moment donné, était plus assez cool pour les festivals genre Lollapalooza, mm-hmm. ben Sharon a dit « Ah ouais, ben on va créer le Ozfest.
Uh-huh. »
Puis là, on va inviter tous les plus grands bands métal de la Terre. Puis les plus grands
qui voulaient tous
rock,
être
qui
là.
Tous être là chaque année. Là, ouais. Tout le monde va à la main. « Ouais, nous autres, on va y aller. »
Bien malgré lui, il est rassembleur. Là,
mais absolument. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir voir dans ce documentaire qui sort, je vous rappelle, le 7 septembre. Mais pour se mettre dans l'ambiance, voici un extrait de Ozzy Osbourne et ses neuf vies.
« Whenever Dad was home, I always got the feeling he was bored. Like, he never, even though he complains to this day about touring, he's not good at home. » Like, I literally just remember him as, like, the dude on the couch.
And I suddenly realized that Ozzy belongs on the road, you know. That there's not a thrill in the world like a great show, you know.
When my mom was like, we're gonna start our own festival.
Yeah, let's do our own thing. And that's how it came up with Ozfest.
Fait que c'est sur A&E à partir du 12 septembre.
Le 7 septembre prochain.
7 septembre, excuse-moi.
Ouais, ouais, ouais. Donc, toute la gang, là. Sharon, Jack, Kelly, ouais. Ozzy, dans ce documentaire, avec des images aussi inédites, des images d'archives, des images assez touchantes aussi que j'ai pu voir de Ozzy en famille, entre deux tournées, avec les enfants, tu sais, Jack puis Kelly, qui sont des trottineurs à ce moment-là. Donc, à voir. Il y a bien des fans d'Ozzy à Québec. J'en suis un personnellement. Donc, c'est sûr que je vais me garrocher là-dessus. Les neuf vies d'Ozzy Osbourne.
Le Boost. Une gang de fun. Allumé. Votre nouvelle émission du matin, c'est le Boost.
98.9 Énergie.
Si vous êtes comme moi, vous avez regardé Canadien hier, c'est la façon de le dire. Ouais, on a perdu une quatrième défaite de suite. Si on compte la série, qui remonte au 10 mars dernier. Mais on fera pas ça. On est pas des gars de même. On s'est remis dans le bain du hockey, mais cette fois-ci, il y avait pas de fans. On entend mieux les discussions, hein, pour garder ça poli, même si ça l'est pas tout le temps. Des meilleurs angles de vue aussi, parce que les caméras peuvent se déplacer un peu plus à cause qu'il y a pas de fans. Et je vais aller voir ce que je crois être le meilleur analyste télé de hockey, voir ce qu'il en pense. Marc Denis du Réseau des sports au bout du fil. Comment est-ce qu'il va, Marc?
Ça va très bien, merci. Ce que vous voyez pas en ce moment, c'est mon visage qui rougit. Voyons donc, Vince, arrête donc, le meilleur, mais...
Ah, j'ai droit à mes goûts, laisse-moi mes goûts.
Et puis je veux dire que mes chums, là,
sont... On peut s'entendre pour passionner. Ouais, ça, c'est sûr. Je sais que tu l'es aussi.
Moi, je dis ça aussi, des fois, quelqu'un me dit « Ah, t'es le meilleur! » Je dis « Non, j'aime ça, mais l'humilité, là, ça a bien ses limites, surtout quand ça vient des autres. Laisse-moi faire. » Mais je veux dire que mes chums sont super excités de notre nouvelle collaboration, puis ils attendaient ça, eux autres, mercredi, 8h30, le lendemain de match, la défaite de 4-2 du Canadien aux mains des Leafs. M'a te laissé... nous écouler ça un peu, là. Juste un mot ou deux sur le match d'hier. Ben, je sais que tu as regardé ça avec beaucoup d'attention.
Oui, j'ai regardé ça avec quand même pas mal d'attention. Je t'écoute puis je me dis, Colin, il n'y a pas juste les amateurs de sport qui ont retrouvé leur sport préféré hier, les amateurs de chiolage aussi, parce que moi, j'accorde pas mal moins d'importance au résultat. Bon, c'est pas idéal de donner un but après 33 secondes puis d'accorder deux autres buts à l'adversaire quand t'es en supériorité numérique. Puis, les langues sales ou les mauvaises langues vont pouvoir dire, ben, c'est encore pire que c'était, dans le fond, chez le Canadien. Plus ça change, plus c'est pareil. Mais il y a beaucoup de rouille, puis je pense qu'il y a ce qu'on a vu, et ça a été le cas, surtout dans le match tard hier soir entre les Oilers puis les Flames aussi, et un peu dans le match entre les Penguins et les Flyers, c'est que le talent revient à la surface quand il y a beaucoup de rouille comme ça.
Mais j'ai été impressionné, Marc, pour vrai, le talent des gars, là, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Les passes étaient sur le tape, les gars étaient disciplinés. Tu sais, Malkin a fait une grosse bourde en après-midi, tout le monde est revenu là-dessus, mais il a fait des jeux extraordinaires sans face. Et on vient de redécouvrir pourquoi on les aime tant. Christy, que les gars sont bons, Marc, ça n'a pas d'allure.
Ouais. Puis en troisième période, Malkin a probablement été le meilleur joueur des Penguins sur la glace. On a vu tout le talent de Konechny hier encore, parce qu'on pense souvent à Couturier, Voracek et Giroux. Chez le Canadien, écoute, il n'y a pas de joueur de cette trempe-là. Il y a quand même des points qui sont assez positifs. Selon moi, le Canadien va, écoute, c'est clair, ils vont avoir besoin d'un gardien de but à la hauteur parce qu'il ne part pas favori contre les Penguins. Price a été correct hier.
Correct.
Et tu sais, du côté... de cet équilibre-là, Claude Julien semble le rechercher en insérant Domi au centre de Willie Weiss. Bon, ben, je suis pas convaincu encore, surtout pas de Dale Weiss. Mais, écoute, j'ai vu Byron patiner. J'ai vu une version de Kotkaniemi que j'apprécie beaucoup plus que celle qu'on a vue cette saison où il y avait un manque de confiance et de forme physique ou de santé physique parce qu'on nous a dit qu'il y a eu plusieurs blessures.
Volonté aussi, aussi.
Et je te dirais que bon, Sherrod a pris une très mauvaise décision en partant le match, mais je te dirais que le top 4 du Canadien a été aussi correct. Il n'y a rien qui a été « wow » hier. Puis on pourrait dire la même affaire d'Austin Matthews. On ne l'a pas vu bien non plus de l'autre côté. C'est sûr que le trio de Tavares, lui, était dominant. Mais moi, je te dirais qu'il y a des points qui sont encourageants. Et là, je vais vous rappeler quelque chose. Les points qu'ils soient encourageants pour que le Canadien cause une surprise. Fait que quand j'ai le mot « surprise », je ne suis pas en train de dire que le Canadien va gagner. Je suis en train de dire qu'ils ne sont pas favoris. Donc, tu sais, il faut que tu mettes en place certaines choses. Le plus inquiétant, ben là, on en a parlé. Le jeu de puissance, non seulement les nouvelles combinaisons n'ont pas marché, ils ont ouvert la porte à l'adversaire, puis ça a complètement... même dans un match qui comptait pas, ça a comme démoralisé cette équipe-là qui tentait de revenir dans le match.
Colin, je suis content que tu dises ça, parce que le moral, il est fragile. C'est pour ça que ça l'aurait pris, la victoire hier. C'est pas essentiel, là, ça donne rien, ça n'a rien, rien. Mais c'est un club, comme tu dis, d'une certaine fragilité. Peut pas donner ce but-là en début de game, peut pas faire les erreurs qu'ils ont fait. On peut-tu refuser ça, un avantage numérique rendu là? T'sais? Non, M. l'arbitre, on va rester à 5 contre 5, nous autres, on a des problèmes. Sont vite, les Leafs, puis les Pingouins, ça a beau être l'équipe la plus expérimentée, pour pas dire vieille, des séries éliminatoires qui débutent samedi, on vous le rappelle. Ils sont vite, eux autres aussi. Donc, toi, t'es entraîneur du Canadien, Marc, là. Je te change de job. T'es plus analyste à RDS, tu remplaces Claude. Qu'est-ce que tu dis à ces gars-là pour se structurer dans le sens du monde, pour affronter deux des meilleurs joueurs de centre au monde,
là? Ben là, je suis rendu le coach du Canadien, je peux pas te parler, il faut que je sorte la cassette.
C'est vrai, excuse-moi.
Que je dise qu'on va travailler fort.
J'ai oublié ce bout-là.
Mais honnêtement, les Penguins de Pittsburgh, là, c'est une équipe qui est beaucoup plus structurée défensivement qu'on lui donne crédit en temps normal. C'est une équipe qui est bonne en relance. Et là, tu parlais de l'expérience et ou de la vieillesse. Là, tu sais, la ligne, des fois, elle est mince. C'est pas une équipe qui va passer énormément de temps dans ton territoire. Donc, ce que tu essaies de faire et ce que je crois que Claude Julien veut faire avec Mété et Ouellet, qui vont peut-être être le troisième duo, c'est de sortir de ta zone le plus vite possible. Moi, c'est ce que je veux faire.
Oui.
Je veux pas passer de temps dans ma zone. Et quand Claude Julien parlait hier d'une équipe qui veut voir plus agressive que passive, c'est que tu peux pas donner du temps, de l'espace, la créativité de manœuvrer à des gars comme Malkin, Genzel, Crosby, le temps à la défense. John Marino, qui est un jeune défenseur qui promet énormément.
Bon, lui.
Il est bon. Parce que, tu sais, les Penguins, eux, ont été bâtis pour un long parcours en série. Le Canadien s'est débarrassé de ces vétérans-là. C'est pour ça que le Canadien est devenu une des trois équipes les plus jeunes de ce tournoi de qualification, parce que Kovalchuk, Cousins, Thompson, puis Scandella, c'est parti. C'est sûr que tu en as regardé sûrement une couple là, si tu savais que tu étais en série. Alors, tu sais, ils sont pas au même niveau, ces deux formations-là, mais il y a une chose, puis ça s'est précisé pour moi hier. Le meilleur gardien des Pingouins, c'est Tristan Jarry, puis j'ai comme l'impression que c'est Matt Murray qui va commencer la série. C'est peut-être là que le Canadien peut surprendre. Tu prends Matt Murray, qui semblait pas tout à fait à point hier, qui semblait être un peu acrobatique, tu les prends par surprise, et c'est une série 3-5, ça peut aller vite. Fait que c'est là où il va falloir que tu capitalises sur tes chances, mais hier, tu sais, la passe de Suzuki, elle est magistrale, là, sur le but de Tatar. Byron, j'ai vraiment aimé son match, je te dis, moi, tu sais, Byron, là, ça sera pas Connor McDavid.
Il est tannant.
Il utilise sa vitesse. Tu le vois qu'il est revenu en santé parce qu'il a été magané dans les deux dernières années. Donc, c'est là où le Canadien... Fait que quand tu me demandes comment j'entrevois ça, tu sais, c'est pas l'équipe la plus rapide, Pittsburgh. C'est une équipe qui est dynamique, qui est bonne en transition. Mais c'est pas rapide au point de vue du coup de patin,
non,
nécessairement.
Non, mais c'est une brèche, il t'abuse. Là. J'ai vu hier chez Weber en 2-1. Tu sais, je comprends que c'est un premier match pour tout le monde, mais il peut pas me refaire ça, là. Je veux dire, tu laisses le shot, ou tu prends une décision rapidement, même si c'est Charrot qui crée le revirement. Là, on a des micro-détails, mais on s'enligne sur un 3-5. Et le Canadien, tu fais bien de le mentionner, a le statut de négligé. Je pense que culturellement, c'est le statut qui leur va le mieux. C'est littéralement un club qui est bâti sur son gardien, qui devra livrer plus qu'hier, alors que Anderson a été meilleur que Carey Price, selon moi. Maintenant, dans la structure de l'équipe, OK? Moi, je catégorise ça en deux catégories. On embarque dans une série. T'as deux sortes de joueurs de hockey dans le contexte. T'as des dauphins et t'as des requins. OK? Les dauphins, ça prend des bonnes photos. Ça dit les bonnes choses aux journalistes. Ça s'habille propre. Puis ça brise pas le couvre-feu. Sauf qu'en série, Marc, là, tu t'as joué pas mal plus que moi. Ça prend des requins. Va falloir que ça joue cochon. Excusez-moi, en tant qu'entraîneur, j'aime pas ça quand des parents m'écoutent dire. Va falloir que ça joue cheap. Le Canadien peut pas jouer beau, propre, t'es pretty hockey puis penser passer une ronde en série, là, ça marchera pas, là.
Ben, c'est là où, à un moment donné, j'ai vu Sherrod hier à la ligne bleue tasser du revers de la main Zach Hyman. Ouais. C'est là où tu vas avoir besoin d'un Sherrod. Ouais. Weber, je pense qu'on s'entend tous, là. Moi aussi, j'ai détesté quand même un joueur de 2-1, mais tu sais, Weber, avec l'expérience qu'il a, là, je vais lui donner un break. Pour hier, moi, je pense que quand les séries vont commencer, il va être là.
Ouais.
Là, c'est Petrie. Petrie, là, c'est le genre de gars dont tu me parles.
Ouais.
Lui, là, c'est un dauphin.
C'est beau.
Je vais reprendre ce que Marc Bergevin a déjà dit.
Oui.
C'est le genre de gars qui va te faire passer à travers la saison, qui va peut-être te qualifier pour les séries, mais est-il capable d'aider une équipe à passer à travers une série? Tu sais, je veux le voir jouer plus chien, parce que lui, il a la mobilité, puis il a le physique aussi pour jouer ce genre de match-là. Est-ce que Yoel Armia, qui est le seul attaquant de bon gabarit, avec un peu d'expérience, est-ce qu'il est capable aussi? On sait qu'il va dans les coins, qu'il protège la rondelle, mais des fois, j'ai l'impression que c'est un joueur de talent qui est pris dans le corps d'un attaquant de puissance.
Ouais, mais hier, il a été en échappé, Marc, il n'a même pas pris de shot. C'est un gars qui a des limites. Là. De le voir dans le top 6 pour amorcer le puck, donner ça au plus habile, je comprends. À un moment donné, ça prend du fini aussi. Là. Être un requin, c'est un peu ça aussi, là, scorer quand c'est le temps. Là. Ben, oui.
Ben, c'est pour ça qu'on se pose la question. Je pense que Paul Byron, c'en est un dans ses limites lui aussi.
Oui.
Dans ses limites, parce que c'est pas un gars qui va te faire mal nécessairement. C'est pas un gars qui va te distribuer les mises en échec, mais tu vas l'avoir d'en face pendant 60 minutes.
Au fond, Léon, jusqu'à temps qu'il se blesse, on le sait.
C'est ça. Pendant les 13 minutes qu'il va jouer, ça va être ça. Donc, c'est là où les questions se posent. Est-ce qu'on va voir une équipe qui est capable d'être hargneuse et de profiter de ses chances? La dernière chose qui peut jouer, on a parlé du talent énormément, mais au fur et à mesure que l'intensité va augmenter, peut-être qu'il va y avoir des ajustements aussi, parce que ça va être important, et du côté de Sullivan et du côté de Julien, puis je te dirais, au niveau des 24 équipes impliquées, les ajustements vont devoir se faire rapidement.
C'est ça.
Il y a la qualité de la glace. Est-ce que cette rondelle-là va bondir un peu partout? Est-ce que hier, on a vu quelques signes. Il y avait juste deux matchs. Il y a des journées où il va en avoir trois. Le tournoi va s'allonger aussi.
Oui.
Donc, tu sais, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Mais honnêtement, tu sais, moi, je donne une méchante bonne note à la Ligue nationale de hockey jusqu'à maintenant pour tout ce qu'elle a fait.
L'enfer,
que ce soit de la télévision des matchs à cet environnement. Certains l'appellent aseptisé. Puis, sais-tu quoi, moi, m'apprendre aseptisé aujourd'hui en 2020 parce que ça ne me tente pas d'être les Marlins de la Floride.
Ah, ils ont tout fait ce qu'il fallait. Puis, en plus, pendant le conflit, ils ont réglé la convention collective.
La convention collective.
Ça, c'est malade. Il n'y a pas un sport qui égale tous les efforts de ligue et joueurs combinés pour nous donner ce qu'on a présentement. C'est un tour de force extraordinaire. Puis là-dedans, il y a des gars qui sont inquiets pour leur santé, puis surtout celle de leur famille quand ils vont retourner à la maison. C'est des humains, des gens comme vous et moi. Tout le monde ferme sa boîte, Marc. Tout le monde va à la guerre pour le plaisir des téléspectateurs, c'est-à-dire nous. Parce qu'à partir de samedi, préparer le maïs soufflé, ça va y aller. Là. Déjà qu'aujourd'hui, tu as du hockey de midi à passer minuit. Ça commence avec la bataille de la Floride, puis ça finit avec Vancouver-Winnipeg. Une petite dernière sur le Canadien avant de passer sur un tour d'horizon. Alex Belzil, c'est donc bien plate ce qui est arrivé. Oh. Le gars joue pas depuis décembre 2019, revient au jeu, tasse Peeling de l'alignement. Tout le monde voulait le voir évoluer parce que c'est un gars qui travaille très fort. Jake Muzzin le gèle, un hit légal, puis après, il n'y a personne sur la séquence, ni après, qui est allé voir un des seuls défenseurs, sinon le seul défenseur des Leafs qui brasse un peu. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi?
La mise en échec en tant que telle, je l'ai regardé par après. Moi, je vais te dire, légal, mes chiens.
Oui, c'est chiant.
C'est chiant, c'est une projection dans la bande qui est dangereuse, clairement. Mm-hmm. Dans le cas de Belzil, certains ont fait le saut hier. Moi, écoute, je l'avais callé depuis le début du camp d'entraînement. Si Belzil n'est pas blessé au mois de décembre, là, quand il commence à avoir des mouvements de personnel chez le Canadien et qu'on se rend compte qu'on ne sera pas des séries, là,
oui.
C'est Belzil qui est probablement le premier candidat rappelé. Avant Hudon, assurément avant Weiss, et peut-être même avant Jake Evans, même si Jake Evans a peut-être été une des belles surprises de la dernière saison du Canadien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Ouais,
mais
bien
Belzil,
joué.
Il était dans le collimateur.
Ouais.
On l'aimait chez le Canadien. Joël Bouchard l'aimait beaucoup aussi à Laval. Et il aurait dû jouer des matchs. Là, il n'en a pas joué. Hier, en deux présences, écoute, il y a eu une chance de scorer.
Oui.
Tu sais, il y a même quelque chose. Ah, oui. Et là, écoute,
c'est
Taper,
plate,
là, quand on l'a vu se faire geler là, en bon français, là, je me demandais comment il a fait pour regagner de son propre pouvoir le banc, puis on a vu après que c'était terminé. Est-ce que c'est par mesure préventive pour une commotion ou il y a donné solidement dans la rampe? Là?
Oui.
C'est pas la tête qui m'inquiète autant que, écoute, on va dire le haut du corps pour l'instant. mais oui, je trouve ça de valeur parce que ben, tu viens de le dire, là, tu parlais des requins. Est-ce que l'équivalent, tu sais, Charles Hudon, je l'aime, Charles, je l'adore, puis je l'ai coaché à Chicoutimi quand il avait 16 ans, puis je pense que c'est un meilleur joueur offensif que bien des joueurs en formation, mais est-ce qu'il a cet élément que Belzil amenait hier? Pas certain. Oui, si je vous l'ai dit tantôt, c'est pas le mien, là. Tu sais, c'est pas mon préféré, même si ça n'a pas été le pire hier sur la glace. Tu sais, Peeling, il a besoin d'un peu de millage. Evans est peut-être celui qui va s'en rapprocher, mais c'est un gars qui est très responsable, veut pas commettre de gaffe. Fait que, c'est de valeur pour un gars comme Belzil, parce que lui, là, c'était une porte qui s'entrouvrait. Espérons pour lui qu'il n'est pas blessé sérieusement. On n'a pas eu de nouvelles, puis on n'en aura pas avec la nouvelle réglementation de la Ligue nationale.
S'il est prêt à y aller, mettons, penses-tu qu'il tasse encore Peeling d'un 3-5 contre Pittsburgh?
Ben, tu sais, il tasse sur Peeling.
Peeling, c'est un choix de première ronde. Ces gars-là ont toujours droit à d'autres chances. Ça en dit gros sur Alex s'il s'infiltre encore dans l'alignement pour les séries.
Oui. Ben, moi, je te dirais qu'à court terme, je le comprends. Puis là, on va rentrer dans un grand débat philosophique, puis je veux pas faire de la philosophie ou psychologie à Saint-Saëns, mais, tu sais, là, le Canadien a quand même pris un virage depuis la première fois depuis longtemps où ils se tournaient vers l'avenir, ils ont échangé des vétérans, ils se tournaient vers les jeunes. Et là, ils obtiennent un sursis. T'sais, ils s'attendent pas à ça, là, si on est dans les séries. Je me mets dans les culottes de Claude Julien,
exact.
Qui m'a demandé de le faire tantôt.
Exact.
Peeling, j'ai pas été convaincu. On me dit que c'est pas le plus grand travaillant. Tantôt, c'est lui qu'il faut qu'il joue là. On s'entend, il faut que ce soit Peeling.
Mais là, présentement, d'y aller avec le mérite, là, c'est une très bonne idée. Là.
C'est une très bonne idée. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça que oui, c'est là. Puis là, je reviens sur lui. Je veux pas m'acharner chez le pauvre Dale, là. Mais tu sais, il sera pas là, lui, tantôt.
Non.
Peu importe ce qui arrive. Alors, il y a du court terme. Il y a cette gestion-là qui est à faire chez le Canadien. Les Leafs vont être prêts avec ça tantôt. Je sais pas si vous avez regardé, ceux qui ont regardé le match, si vous avez aimé Robertson, c'est sûr qu'il fait des gaffes, il essaie des affaires qui n'ont pas de bon sens.
Ah non, mais il
a scoré 55 buts dans le junior, le meilleur scoreur de la CHL.
Oui,
puis
oui.
Il y a de l'impact. C'est un gars dynamique. Ben, tantôt, il va falloir que Sheldon Keefe et que les Leafs décident si est-ce que c'est Frédéric Gauthier, notre géant québécois hyper responsable qui gagne trois quarts de ses face-offs, qui est dans la formation, ou c'est Nick Robertson. T'sais, il va y avoir des décisions un peu partout dans la Ligue à prendre tantôt à ce niveau-là.
Mais un gars comme Gauthier, faute d'autres choses, il faut que tu le gardes dans ton line-up, selon moi, là, même si l'autre est plus talentueux. Mais ça, hey, c'est le problème, ils géreront ça. Je pourrais te parler pendant 4 heures, mais il fallait que je te pose la question, parce que c'est la première fois qu'on jase, j'espère qu'on va répéter ça souvent, Marc.
Ouais.
Ton feeling, là, okay, dans cette portion éliminatoire du jamais vu pour personne, dans le timing de l'année, dans l'exécution, qui c'est qui ramasse ça, le trophée Lord Stanley cette année?
Wow! Tu sais, premièrement, c'est hyper complexe. C'est très difficile à analyser quand on a 16 équipes, puis là, on a 24.
C'est pour ça que je te le demande à toi, c'est parce que c'est pas facile.
Exact, à cause que c'est pas facile. Moi, là, de ce que j'ai vu, au niveau de discipline et d'équipe potentiellement complète, là, c'est clair que Et avec, je devrais ajouter, avec les transactions qui ont été faites à la date limite.
C'est parce important, que ça,
on l'oublie parce qu'on n'a quasiment pas eu de hockey après la date limite et les équipes qui se préparent pour les séries. Moi, je pense que Vegas s'est arrangé pour faire un beau tour dans l'Ouest.
Ah ouais.
Puis Boston, c'est encore une équipe tannante dans l'Est. Avec le groupe de vétérans qu'ils ont là. Fait que je t'en nomme un dans chaque association.
Oui.
Ça sera probablement pas ces deux-là parce qu'il y a tellement plus d'occasions d'avoir de surprises encore. Tu sais, quand on dit là, les surprises en première ronde, c'est comme si cette année, on en avait deux premières rondes.
C'est
fait
ça.
Que, tu peux quasiment doubler le nombre de surprises.
Oui.
Écoute, ça va être intéressant. Moi, je pense que, tu sais, tantôt, on faisait des farces avec les chialeux. On va avoir du bien meilleur hockey qu'on s'attend. Puis si jamais, là, la game de 2-1 des séries, où il y a 100 mises en échec, ça devient une game de 4-3 où il y a 70 mises en échec, je pense pas qu'on va s'en plaindre. Il y aura un peu plus d'erreurs, puis les goalers goaleront à 910 au lieu de 928.
Oui.
Ce sera pas la fin du monde, moi, je pense, si c'est le genre de hockey qu'on a. Puis
pour les chialeux, moi, ça me fait plaisir de les entretenir, surtout avec toi. J'aime mieux entendre chialer sur Carey Price que sur le port du masque, mais ça, c'est bien personnel.
Ouais.
Et que ça peut divertir les gens un peu plus, faire dégazer les gens. Ces gars-là sont en mission confinée pour nous plaire, après tout. Donc, on va vraiment profiter, on va mordre là-dedans. Marc, merci beaucoup de ton apport à l'émission. J'espère qu'on en reprend ça très rapidement.
Avec plaisir, n'importe quand. Salut tout le monde.
Profitez-en, mon homme. Un passionné, un vrai, l'ancien gardien de la LNH. Et j'ose encore le nommer, le meilleur analyste télé du hockey.
Plus de fun le matin avec le Boost.